Le podcast La Chamane est un espace de réflexion libre qui jette un regard hors du commun sur des sujets et des problématiques de tous les jours. Médiumnité, chamanisme, psychologie, neurosciences, intuition, santé holistique et j'en passe. Je suis Amy Gale, votre chamane qui décortique avec vous de nombreux sujets qui ont un impact profond sur nos vies. Toujours avec comme mission la croissance spirituelle et l'épanouissement de chacun. Bonjour à vous, je suis super heureuse de vous parler comme toujours. Eh bien, j'enregistre cet épisode au lendemain du lancement du 15e épisode qui portait sur l'intuition et l'écoute. Et il s'est passé tellement de belles choses, de belles connexions. L'épisode a été beaucoup partagé sur Facebook et bien, ça m'a tellement emballée. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Alors, ça m'a permis de surfer là-dessus et de vous préparer déjà un 16e épisode à l'intérieur de même pas 24 heures. Et en fait, c'est ce que j'appelle réellement vivre dans le flow. Et je vous en ai déjà parlé, c'est comme ça que je vois la vie idéale, en fait, d'être vraiment toujours dans un état où on coule avec ce qui arrive et on suit son intuition et on suit son inspiration. Vous savez, on peut tous être créatifs. On n'a pas besoin d'être des artistes, d'avoir un podcast pour être créatif, mais c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans la façon de voir la vie toujours en résolution de problèmes ou en tout cas toujours sous une perspective qui est créative par rapport aux éléments qui nous viennent. En fait, je dois vous dire, c'était jeudi dernier. En fait, je me suis levée le matin, j'étais un petit peu grognonne. J'étais grognonne depuis presque 2 semaines. Et ce matin-là, je me suis rappelée, je me suis dit, mais mon image parfaite de moi, les moments où j'ai été vraiment bien, c'est quand j'étais dans une liberté, j'avais l'impression de voler. Bon, vous allez dire, c'est toute une image qui finalement n'est pas réaliste. Hier, j'ai pu très bien faire le lien, en fait, de quoi je parlais exactement. Comment est-ce que ça peut se concrétiser dans une vie, ça? Et c'est dans la joie, en fait, mais la joie inconditionnelle. Et ce jour-là, jeudi dernier, où j'ai pensé ça le matin, je suis allée à vélo sur la piste cyclable, très près de chez moi, et qui est juste à côté du lac, qui est collée sur la forêt, et... La piste cyclable a été abîmée par la crue des eaux, alors j'ai pas pu, j'ai dû arrêter, en fait, parce que la route était complètement brisée, et un ruisseau coupait en deux la piste cyclable. Je suis restée là un bon moment, j'en ai profité pour méditer, pour parler à mes guides, pour me recentrer, et avant de partir, en fait, je me suis dit, je vais aller voir l'eau, je vais aller voir de près, puisque je m'étais gardée une petite distance, alors je me suis approchée du ruisseau, et... Je me rappelle, ma première vision était tout simplement de voir l'eau qui était très verdâtre. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de poisson. Et quand j'ai regardé ensuite, après avoir regardé ailleurs, j'ai vu des centaines de ménés, de bébés poissons. Et je me souviens m'être dit, mais mon Dieu, est-ce qu'ils étaient là tantôt parce que je les ai vraiment, vraiment pas vus. Je me suis demandé si ils étaient apparus. Mais clairement, j'ai plus l'impression que mon attention était tellement dirigée vers ailleurs que c'est simplement quand j'ai vraiment penché mon regard dans cette espèce d'étang que j'ai pu voir toute la vie qu'il y avait à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous allez voir où je m'en vais avec cette histoire-là, à ce moment-là, je regardais ça. Et puis, je venais de prier, je venais de parler à mes guides. Ben, en fait, oui, moi de leur parler, mais eux ne m'avaient pas répondu apparemment. À mon oreille tout de même. Je suis là et je regarde les petits poissons qui se promènent. Et puis à un certain moment, je me dis, et c'est une réalisation que j'ai déjà faite, mais à ce moment-là, elle est revenue très fortement, et je me dis, mais ils n'ont pas besoin de rien, eux, pour exister, ils sont juste là. Je dis, oui, ils ont leur besoin de base, mais ils ne se cassent pas la tête, ils font juste être là. Et ça m'a tellement allégée, ça m'a ramenée justement à cet état auquel je pensais le matin, qui était cette liberté, cette sensation de ne pas être retenu par un poids. Puisque de toute façon, tout ce qu'on a à faire, c'est à être là. Pas se poser plus de questions. Et cette réalisation de jeudi est restée finalement et s'est développée. Et ce matin, c'était réellement devenu de la joie inconditionnelle. Alors, être... Vous savez, vous regardez un chat, un chien, un animal, ils ont rarement l'air malheureux. ils sont tout simplement là. Et je crois qu'il y a un état de base qui est là et qui s'appelle la joie, qui est juste la légèreté. Les animaux s'inquiètent pas, ils ont pas de mental, eux, pour ressasser des choses et pour s'inquiéter et pour analyser. Alors, je vous ai préparé cet épisode-là qui est sur la joie inconditionnelle. Et je dis bien inconditionnelle. Et comment est-ce que ça peut fonctionner? Alors, il y a presque 2 ans, j'ai fait l'expérience de vivre dans la joie inconditionnelle. À vrai dire, j'en ai fait le choix réel. Et je voyais très bien à quel point c'était un choix qui était en fait très précieux et très bienfaiteur pour moi-même. J'ai affirmé ce choix-là pendant plusieurs semaines, sans avoir aucun doute. Puis, en fait, c'est ça, je me sentais réellement très très bien et je sentais justement que mon humeur, ma vibration, ma créativité, ma capacité d'écrire, ma capacité d'être présente avec les gens, d'être pleine d'amour avec mon fils, de déborder d'énergie, tout ça c'était là. Et à un certain moment, il y a des petits chagrins, il y a des échecs, il y a des attentes qui sont réapparues. Ça m'a ramenée à négliger de prendre soin de mon petit bonheur et de ma paix intérieure. Et au bout de quelques mois, j'ai tenté de revenir à cet état-là de joie inconditionnelle que j'avais quitté. Et je ne trouvais plus aucune logique. J'arrivais plus à y retourner. Et je me demandais comment j'avais pu penser à ça, comment j'avais pu être convaincue que finalement la joie inconditionnelle était possible, qu'elle était possible à long terme et que c'était la chose à faire. Aujourd'hui, ça fait plus qu'un an d'introspection et de guérison que je fais. Mais je finis par revoir toute la valeur de la joie inconditionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de gamification en anglais. Donc, en fait, l'idée de base, moi, que j'avais entendue dans un TED Talk, c'est que, vous savez, quand on joue à un jeu vidéo, on est toujours en mode solution. On est en mode créatif. Oui, on a tendance à croire que les jeux vidéo, c'est très négatif, mais tout de même, dans un jeu vidéo, on cherche à trouver la solution. On a une quête, on a une mission et on cherche à la mener à terme, à réussir. Et justement, la femme que j'avais vue en TED Talk, en mini-conférence, elle expliquait qu'elle s'était blessée, si je me souviens bien. Pour vraiment faire sa rémission, elle avait utilisé la gamification. Donc, elle avait donné des objectifs, pareil comme dans un jeu vidéo, avec des niveaux d'accomplissement. Et c'est comme ça, avec ces espèces de challenges-là, ces petits défis-là, qu'elle avait réussi à voir son rétablissement comme un jeu vidéo. Et là, ça l'avait vraiment stimulée et motivée. C'est une approche que plusieurs personnes utilisent, en fait, et on peut la ramener à se dire que la vie est un jeu. Et là aussi, quand on pense à ça, oh, on peut avoir envie de grincer des dents. Je sais pas comment vous le prenez quand je vous dis la vie, au fond, c'est un jeu. La vie, c'est un test. La vie, c'est une expérience. La vie, c'est une aventure. La vie, c'est un jeu. Je pourrais vous le répéter encore. Et tant que ma vibration est basse, je ne peux pas concevoir du tout cette idée-là. Dans ma tête, ça accroche complètement. C'est comme si je devais me forcer avec mon mental à me convaincre que c'est vrai, que la vie, ça peut être un jeu. Mais ma vibration est tellement attachée aux choses difficiles ou à la souffrance normale de tous les jours, au fait de penser que la vie, c'est dur, que je ne peux absolument pas m'imaginer que la vie peut être vécue comme un jeu. J'imagine qu'il y en a peut-être d'entre vous chez qui ça fait ça. Vous essayez de saisir comment la vie peut être un jeu, puis vous vous dites, ben voyons donc, il y a bien trop de choses atroces, il y a bien trop de difficultés, bien trop d'échecs, j'ai besoin de me forcer, la vie c'est dur, la vie c'est pas un jeu, c'est pas léger. Et pourtant, on répète toujours que pour trouver réellement le bonheur, il faut revenir à l'enfant qu'on était. Un enfant, qu'est-ce que ça fait? Ça joue tout le temps. Ça prend pas les choses au sérieux, c'est capable de relâcher les émotions qui sont prises plutôt que de les ruminer, de les garder en dedans comme nous on fait. Les enfants, ça les sort tout de suite. Alors oui, on peut avoir une sagesse tout en étant un enfant. Et d'ailleurs, la plupart, je pense au Dalai Lama, c'est un exemple parfait d'enfant. C'est un gamin en quelque sorte puisqu'il fait beaucoup d'humour en fait. Et en même temps, il a toute la sagesse du monde, vous comprenez? C'est justement quand on dédramatise qu'on arrive à se libérer et à vivre dans l'humour, donc dans le jeu. Vous savez, dans le dernier épisode, je vous ai parlé de l'intuition. Et vivre avec son intuition, c'est en grande partie vivre dans la joie inconditionnelle. Et vivre dans la joie inconditionnelle, ça ne veut pas dire de chercher le plaisir à tout prix ou d'éviter les situations difficiles. Ça veut juste dire ne plus accepter de situations qui ne nous servent plus. Ça veut dire de fermer définitivement la porte de ces vieilles expériences. Et, justement, fermer la porte. C'est un concept qui m'est venu en écoutant une conférence de Carole Boucher, dont en fait vous avez pu entendre un extrait d'une entrevue avec lui à l'effet papillon. Vous avez pu entendre ça dans l'épisode 15, qui était le dernier épisode. J'écoutais sa conférence et il parlait en fait d'une technique très simple qui est juste de fermer la porte à des choses qu'on ne veut plus vivre ou à des relations. Mais une fois que la porte est fermée, elle est fermée, on ne va pas la réouvrir. Et vous savez, j'ai essayé d'utiliser plusieurs techniques pour surpasser des comportements ou des croyances qui ont tendance à revenir chez moi. J'ai essayé des affirmations du genre « je me libère »,« je me pardonne »,« je suis guérie ». Mais encore à 19 ans, j'avais cette image-là où mon passé me donnait le vertige, comme si j'allais y tomber, comme si j'étais menacée à chaque jour d'y retourner avec un seul faux pas. Je me sentais constamment en vigilance avec moi-même. Fallait pas que je dérape, comme si j'étais complètement hantée et qu'il suffisait juste que je mette le pied à côté pour me faire agripper par mes vieux démons. Est-ce que vous connaissez ça? Mettons que vous essayez de vous sortir d'une dépendance, d'une habitude, d'une vieille croyance qui vous sert pas, qui fait juste vous retenir. Et puis, vous arrivez à vous en sortir pendant plusieurs mois. Et puis, à un certain moment, oh, vous faites juste, je sais pas, prendre une bière, manger un morceau de gâteau, peu importe. Arrêtez de vous entraîner, ça dépend c'est quoi votre croyance. Vous alimentez une peur. Et puis tout à coup, vous glissez. Il suffisait juste de ça pour glisser. Et puis tout à coup, vous y croyez plus. Vous pensez que de toute façon, vous y arriverez jamais. Je suis certaine qu'il y en a parmi vous à qui c'est arrivé au moins une fois. Mais quand on a fermé la porte, quand on dit « c'est terminé », qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'on ferme la porte, qu'on la verrouille, qu'on jette la clé. Tant que c'est pas une négation ou une fuite, là, à partir du moment où cette expérience-là a été vécue maintes et maintes fois, là, elle nous sert plus. Il faut pouvoir dire solennellement « j'ai fait le tour, c'est terminé. Je suis prêt à vivre ma vie différemment. » Dans la joie, dans la lumière, dans la foi. Dire à mes guides « ok, cette étape-là, je pense que je l'ai compris. Maintenant, je suis prêt à passer à la prochaine. » Et je compte sur vous pour m'appuyer et me montrer de nouvelles portes à la hauteur de mon potentiel et de tous mes talents connus et encore inconnus. Merci. Vous savez, après des mois de développement personnel intense, après avoir fouillé tous mes recoins, après m'être retrouvée encore dans les mêmes circonstances, je me dis si la guérison était si simple que de fermer la porte. Mon amie Jocelyne Primard, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, appelle ça se libérer de ses boulets. Les boulets, c'est l'attachement à tout ce qui nous retient. Toutes les défaites, les blessures, les habitudes d'autodestruction ou l'abandon qui nous retiennent. Et si on enlève nos boulets, on réalise qu'on est libre, que pendant tout ce temps-là, le pouvoir reposait entre nos mains. Quand on enlève nos boulets, on prend notre pouvoir. Pour ça, il faut accepter de les enlever. Il faut accepter de prendre notre pouvoir. Je vais vous mettre un extrait de Carole Boucher, de sa chaîne YouTube, en fait, une vidéo qui le fait justement sur fermer les portes et ça va vous éclaircir un peu plus l'exercice que vous pouvez faire pour réellement vous aider. Et moi, ça m'a complètement allumé hier quand j'ai entendu ça et ça m'a donné, en fait, une grande bouffée d'air parce que ça faisait un bout de temps que j'arrivais pas à trouver la solution, là. Mais juste de me dire « la porte est fermée ». That's it. C'est inconditionnel, ça aussi, là. Je la ferme, la porte, je suis tannée. Puis pour moi, c'était comme si c'était une forme de négation ou justement de fuite. Mais non, là, les blessures, là, une fois qu'on a compris à quoi elles servaient, on n'en a plus besoin. Alors, on ferme la porte, on dit « je suis prêt à vivre autre chose », puis on le dit très fort, on le dit à nos guides, on le dit à notre âme, on le dit à notre entourage, mais on ne cherche pas à se justifier. Jamais, on n'a pas à se justifier de ça. Une fois qu'on sait pourquoi on le fait, on le fait. On ferme la porte. Vous allez comprendre plus le principe là, avec la vidéo de Carole.
Bonjour à tous, Carole Boucher, les chroniques de Carole, donc l'auteur de Mon corps me parle et de La simplicité au quotidien. Donc, j'ai envie de vous parler cette semaine comment fermer des portes pour avancer. Donc, vous avez certainement de plusieurs situations dans lesquelles vous avez traversé dans votre vie, puis plusieurs ont peut-être stagné de plusieurs façons différentes. Donc, s'il s'agit simplement de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le phénomène, et souvent, il faut arriver à comprendre que la loi d'abondance, stupide comme elle est, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, en même temps, vous voulez autre chose, ça fonctionne pas. Alors, tout simplement, il faut être capable de fermer des portes pour être capable d'aller de l'avant. Fermer des portes, ça veut dire quoi? Faut arriver à comprendre simplement qu'il y a plusieurs principes de programmation et autres qui sont déjà utilisés pour fermer des portes, comme la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou plusieurs choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont plus simples encore et qui sont de fermer des portes. Mais faut arriver à comprendre de quoi on a besoin de fermer des portes. Je vous donne un exemple. Si vous voulez trouver un emploi et en même temps vous avez peur de pas trouver d'emploi, eh bien, vous voulez deux choses. Parce qu'une peur est également une création. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sur deux flancs en même temps. Donc, il faut être capable de sortir de cette zone d'inconfort, je dirais, et d'arriver à créer quelque chose de mieux. Donc, à partir de ce moment-là, c'est simplement de voir que, OK, ce que je dois vouloir, c'est une seule direction. Donc, c'est-à-dire de vouloir l'emploi idéal, ou c'est-à-dire de vouloir le conjoint, le couple idéal, ou c'est-à-dire de vouloir être bien dans sa vie, de se prendre en main. Donc, il s'agit de savoir ce que vous voulez et pas ce que vous voulez pas. Donc, c'est souvent un défaut que les gens ont. Admettons qu'ils veulent être en couple, mais ils sont bien seuls. Donc, ils veulent deux choses en même temps. Donc, c'est de comprendre avec quoi qu'on veut couper. Et là, à partir de ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement de prendre n'importe quelle porte que vous avez chez vous, où vous travaillez, ou n'importe quoi, et vous prenez une porte, sincèrement, une porte, là, aussi simple que c'est, et vous prenez la porte, vous l'ouvrez. Sur la porte, vous pouvez écrire juste un petit papier là, autocollant, okay, vous allez mettre là, okay, un petit post-it, avec la situation que vous voulez fermer la porte, okay, que vous voulez régler, parce que votre inconscient a besoin, lui, de comprendre qu'une porte est fermée, et le conscient a besoin de faire un geste ou une action. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des peurs pour ne pas atteindre quelque chose, ce que vous faites, c'est que vous écrivez sur la porte les peurs que vous avez. Et à partir de ce moment-là, vous prenez la poignée, une respiration, et vous pouvez avoir l'état de gratitude ou de quoi que ce soit, de comprendre que tout arrive pour une raison, puis tout est parfait, etc. Et simplement, fermer la porte. C'est pas mal ça. Après ça, le papier que vous avez mis sur la porte, aucune importance, parce que la situation est déjà fermée, vous pouvez le recycler, le brûler, sur le haut d'une montagne, il n'y a pas d'importance. OK? C'est vraiment comment vous vous sentez une fois que c'est fait. Et là, à partir du moment où c'est fait, simplement, respiration, et de se dire, c'est fait, et après ça, de dire, notre objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Donc, qu'est-ce que tu veux? Avoir un emploi, avoir un conjoint, avoir ma vie idéale, avoir la santé. Donc, à partir de ce moment-là, vous manifestez ce que vous voulez. Mais c'est important de fermer des portes, parce qu'il faut arriver à voir une chose, c'est que si on laisse des portes ouvertes dans la vie, OK, donc des situations non concluses ou bien qui n'ont pas encore terminé de se passer, et à partir de ce moment-là, bien, on va créer comme une espèce d'attente. Et cette attente-là est une attente de temps. Donc, ça fait que les choses n'avancent pas. On veut que ça avance, mais ça étire, ça étire, ça étire. À un moment donné, on veut aller de l'avant. Et à partir de ce moment-là, bien, c'est important de simplement fermer des portes. Donc, c'est un petit exercice tout simple. Et souvent, on peut fermer la porte à beaucoup de choses. Hein. Les relations avec des gens, avec des ex-gens, avec des employeurs. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent peut-être vous empêcher d'aller de l'avant. Comme nous donnons l'exemple d'un emploi, que si vous avez peur que quelqu'un vous peut-être fasse une mauvaise publicité, quoi que ce soit, prenez la porte. Fermez-la, écrivez le nom de la personne que vous pensez qui peut peut-être vous créer des problèmes ou quoi que ce soit. On ferme la porte. Si c'est vous-même, de fermer la porte à vous-même, vos anciens comportements versus vos nouveaux comportements. Alors, vous prenez la porte, vous la fermez. Ah, c'est fait, c'est terminé, c'est résolu. Je suis prêt à aller de l'avant. Donc, prenez le temps de le faire. Et c'est pas une fois qu'il est fait, c'est terminé à vie. Donc, une fois qu'il est fait, peut vous donner peut-être 2 semaines, 1 mois, 3 mois de répit. Et après, ça peut revenir. Donc, c'est important de le refaire au besoin. Et c'est une technique qui est tellement simple, tellement conne. Vous pouvez être à côté de quelqu'un, fermer la porte. Vous n'êtes même pas obligé de mettre le mot sur la porte parce que pour vous, c'est une intention en réalité. Alors, vous pouvez juste fermer la porte. Admettons que vous allez, je ne sais pas, chez une personne que vous voulez vraiment conclure. Bien, lorsque vous partez, vous fermez la porte, c'est c'est terminé. Okay? C'est une autre façon de le faire. Donc, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on peut régler des choses et on peut changer les comportements aussi autant de soi que des autres en faisant ce simple geste de fermer une porte. Donc, n'hésitez pas à fermer les portes. Donc, mon nom est Carole Boucher. Vous pouvez visiter le www.carolboucher.ca pour aller voir les autres vidéos. Merci de partager également. Donc, c'est ce qui fait la visibilité. C'est ce qui fait que mes outils accessibles à tous, ils deviennent encore plus connus. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine et on va se dire à la prochaine émission.
Alors, merci à Carole Boucher pour ce super vidéo qui vous explique quand même très bien le concept de pourquoi on veut fermer des portes et les exercices qu'on peut faire. Ce que j'ai noté, vouloir une seule direction. Donc, qu'il n'y ait pas de contradiction. Ce qui est très important quand on veut avancer, quand on veut s'épanouir, fleurir, évoluer, c'est la cohérence. Il dit, il s'agit de savoir ce que vous voulez, mais pas ce que vous ne voulez pas. Il ne faut pas penser ces deux choses en même temps. Parce qu'il y a quelque chose de très simple au niveau de l'inconscient dont je vous ai déjà parlé. C'est que la pensée la plus forte dans la balance, c'est elle qui va gagner. Alors, je l'ai vécu personnellement et c'est drôle parce que je vous ai dit qu'il y avait eu un bel engouement suite au dernier épisode, le 15e épisode que j'ai publié hier. Il y a eu justement une publication de Le Porteur sur Facebook, qui est en fait la page Facebook de Jocelyn Primard, dont je parlais dans le dernier épisode. Jocelyn a écrit « Quand nous avons soupé avec Amy Gale en octobre dernier, celle-ci était dans une partie intense de son cheminement de vie. » Elle a décidé d'ouvrir ses horizons, de retourner à son cœur et de faire la paix avec l'amour. Et maintenant, 7 mois plus tard, elle est entrée dans sa vie. Pour elle, ce qui n'était pas possible est devenu réel. Alors vous voyez, faire la paix avec l'amour. Justement, je vous parle de contradiction, c'est que pendant longtemps, en fait, j'essayais de manifester mon partenaire amoureux, l'homme de ma vie, mon âme sœur réellement. Et j'avais cette dualité à l'intérieur de moi puisque d'un côté, je fuyais les gens. Je voulais rester seule, je voulais m'isoler. Il en parle, Carole Boucher, c'est très simple en fait, l'ambivalence entre vouloir être avec quelqu'un, mais aimer son indépendance, aimer sa solitude. Alors d'un côté, je souffrais de ma solitude et d'un autre côté, j'aimais ma solitude puisque j'étais libre aussi, je pouvais bien faire tout ce que je voulais. Et ça me terrifiait de me lier à quelqu'un puisque j'avais peur de perdre cette liberté-là. Vous comprenez que ce qui pesait dans la balance, c'était beaucoup plus mon besoin de fuir et de m'isoler que mon besoin d'être avec quelqu'un. Alors, ce que j'obtenais, c'était la fuite et l'isolement. Alors, je ne pouvais pas attirer ce partenaire-là. Et à partir du moment où j'ai accepté que, oui, je le désirais réellement, oh, il est apparu. Il a fallu que je m'accepte moi-même aussi, mais vous comprenez. Il faut savoir ce qu'on dégage, parce que dans la balance, si on a une pensée consciente et qu'on a une pensée qui est plus ou moins consciente ou une habitude d'autodestruction, ben c'est le plus pesant qui va gagner dans la balance. Vous comprenez, là, on parlait d'un exercice pour fermer les portes, mais c'est pour tout, là. C'est pour tout ce que vous pensez au quotidien. Il y a aussi une technique très intéressante. Celle-ci, en fait, c'est pour couper les liens. Vous savez, c'est une image qu'on entend souvent, couper les liens des anciennes relations qui ne vous servent plus, des anciennes situations. Et moi, je ne savais pas trop comment faire ça. Je m'imaginais des cordes, puis je me disais, bon, on va couper ça. Mais ça ne me parlait pas tellement. Il y a Jacques Martel qui a écrit le dictionnaire des malaises et maladies, qui est très connu. Il a fait en fait une technique qui s'appelle la technique des petits bonhommes allumettes. Bon, idéalement, il faudrait que vous ayez voir sur YouTube, c'est expliqué en français, super bien fait, comment faire en fait avec les dessins. Mais en gros, on commence par se dessiner soi-même. C'est important que vous alliez voir parce que lui insiste beaucoup sur le fait que la technique doit être utilisée telle qu'elle est expliquée pour réellement fonctionner. Mais je vais vous l'expliquer quand même rapidement. Alors, dans la technique, on commence par se dessiner soi-même en petit bonhomme allumette. Ensuite, on dessine un rond de lumière autour de soi. Ensuite, on dessine l'autre personne qui est concernée ou sinon, ça peut être une situation. Alors, on va faire un rectangle et on va énumérer, en fait, la situation dans le rectangle. Que ce soit une personne ou une situation, on va faire un autre rond de lumière autour de l'autre personne ou de la situation et on va faire un rond de lumière global autour des deux personnes pour comprendre que tout ça, c'est entouré de lumière et en fait, ce qu'on souhaite, c'est ce qu'il y a de mieux pour les deux personnes ou pour la personne et pour la situation. Parfois, en fait, il faut admettre que ce qu'il y a de mieux, c'est pas quelque chose qu'on sait. Alors, de laisser ça dans les mains de l'univers, c'est lui qui sait très bien ce qu'il y a de mieux pour nous, pour l'autre personne ou pour la situation. Et ensuite, en fait, on trace des liens qui sont liés aux chakras, puisque nos chakras peuvent s'attacher selon, en fait, ce que chaque chakra représente au niveau de nos besoins ou de nos comportements, il peut y avoir un chakra qui est beaucoup plus attaché qu'un autre. Alors, on trace les lignes des sept chakras principaux entre les deux personnes ou entre nous-mêmes et la situation. Et une fois qu'on a tout bien fait ça, en fait, on va aller couper les liens au ciseau. Et il y a quelque chose que Jacques Martel explique que je trouve très intéressant et cohérent, c'est que notre inconscient, notre subconscient, retient 90% de ce que nous écrivons. Alors, un coup que c'est fait, on n'a pas besoin de le garder, c'est pas un exercice de visualisation du tout. Il s'agit juste de demander, en fait, pendant qu'on le fait, on explique avec la lumière et on demande, en fait, que ce qu'il y a de mieux nous arrive, que ce soit quelque chose que parfois on n'a pas la solution, alors on met ça dans les mains de l'univers, que l'univers va s'occuper de nous apporter ce qu'il y a de mieux. Et parfois, ça peut faire en sorte qu'une relation va se terminer, comme ça peut faire en sorte que la relation va devenir extraordinaire. C'est simplement ce qu'il y a de mieux pour nous et on va le découvrir avec le temps que c'était la bonne chose à faire. Alors, c'est un autre exercice de ce genre-là. Encore une fois, je spécifie que c'est important d'aller voir sur YouTube vraiment comment le faire. Il y a aussi un livre qui a été fait sur le sujet. Vous avez juste à chercher la technique des bonhommes allumettes et vous allez trouver. Alors, moi, j'ai décidé de tenter l'expérience de fermer la porte. Avec les troubles alimentaires, vous savez, je vous en ai parlé beaucoup récemment, c'est pas un problème, mais je me disais, ah, je suis toujours vulnérable, ça peut toujours arriver n'importe quand. Il y a cette pensée où on dit que quelqu'un qui a un trouble alimentaire a un trouble alimentaire toute sa vie. On dit aussi qu'un alcoolique est un alcoolique toute sa vie. Et ça, Carole Boucher en parlait dans une conférence justement où il disait, on dit ça et en fait, on se programme soi-même. C'est comme dire que l'anxiété, je vais en avoir toute ma vie puisque j'ai eu des périodes anxieuses. Finalement, je crois que c'est possible de tout simplement fermer la porte de ces situations-là et de dire j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Cette situation-là ne me sert pas. Je souhaite qu'elle termine et de fermer la porte. Et comme Carole le dit, ça peut revenir, mais on refait l'exercice à ce moment-là plutôt que de se laisser sombrer dans le trou. On refait l'exercice tout simplement. Et on fait ça avec les doutes. J'avais l'habitude de douter. Continuellement, j'avais une grosse mémoire d'abandon qui vient, je crois, même de vie antérieure et de ma vie actuelle. J'avais l'habitude de fermer mes oreilles pour vouloir tout décider avec mon mental. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Alors dire, j'ai envie de dire, je ferme la porte pour accueillir une femme intuitive à l'écoute de son environnement et de sa guidance. Une femme de cœur qui n'a pas peur de donner. Une femme qui donne et qui reçoit. Qui est connectée au tout et qui est consciente que c'est la seule façon de vivre une vie épanouie, l'interdépendance positive et constructive. Alors, j'accueille une femme qui affirme sa place pour toute sa famille, toute sa tribu, qui elle aussi a droit à tout l'espace et tout le bonheur qui lui revient. Alors, je vous ouvre l'espace qu'avant je gardais pour moi-même. Alors, je vous invite à faire un exercice similaire. En pratique rituelle, on fait quelque chose de très, très, très semblable. En fait, on fait un exercice où on dit « je quitte telle facette de moi ». Alors, moi, c'était « je quitte la femme qui étouffe par rapport à l'anxiété ». Et ensuite, on va passer vraiment un seuil de porte. Et c'est, plutôt que de fermer la porte, en fait, on franchit un seuil. Et l'idée, c'est de ne plus avoir à revenir sur nos pas. Alors, on pourrait franchir le seuil et même fermer la porte. Ce serait encore plus significatif. J'y avais pas pensé. Et après, on dit j'accueille. Donc, moi, c'était j'accueille la femme guérisseuse qui s'aime et qui parle. Tout ça, ça se rejoint en fait. Il faut qu'il y ait une mort, il faut qu'il y ait une fin. Alors, quand on passe le seuil, on fait mourir ce qu'on souhaite plus vivre. C'est la même chose quand on ferme la porte. Vous savez, je reviens à la joie inconditionnelle. La joie inconditionnelle, c'est de connaître suffisamment sa valeur pour dire non à ce qui convient pas. Et à ce qui est plus en cohérence avec nos valeurs. Alors, c'est d'apprendre à dire non pour être réellement en accord avec soi, avec son instinct, son intuition, sa vérité. C'est de se choisir soi. Et c'est très, très différent de l'égocentrisme. Parce que la joie inconditionnelle, ça rayonne. Ça énergise tous ceux qui se trouvent près de la personne. Alors, vous voulez changer le monde pour en faire un espace d'amour, de douceur, de paix? Il faut commencer par choisir votre propre joie inconditionnelle. Et c'est pas un état naïf et déconnecté. C'est un sentiment de joie intérieure, de cœur léger et de foi. C'est un sentiment d'enthousiasme qui nous anime, qui nous soulage à chaque jour. C'est un carburant exceptionnel, la joie. Et la joie inconditionnelle est complètement liée à la gratitude. L'idée, c'est que on a juste une vie. Et cette vie-là mérite tellement d'être belle. Alors que j'avais 19 ans et j'étais en train de me séparer de mon mari, parce que je me suis mariée à 18 ans. Je pensais à ça et j'essayais de me remonter le moral. Et puis à un certain moment, j'ai reçu en canalisation ces mots-là qui disaient « Ces moments sont trop précieux pour ne pas être heureux. » Et ça parlait pas simplement des jours, des semaines, du mois actuel. Ces moments, ça voulait dire toute cette vie. Cette vie-là est trop précieuse pour ne pas être heureuse. Alors si on a un apprentissage à faire, je crois que l'apprentissage suprême, c'est la joie inconditionnelle. Ça veut pas dire de pas voir ce qui est triste, de pas voir ce qui est dur, de pas voir les blessures, les difficultés des autres et de ne pas les écouter et y être attentif. Mais ça veut dire d'être porteur de lumière. Ça veut dire qu'en tout temps, on va trouver une façon, si c'est pas par des mots, juste par notre énergie, de partager de la joie, pas de la naïveté, pas de la déconnexion au réel. On reste grounded et on sait qu'il n'y a rien qui a plus de valeur que la joie et que justement les gens qui sont dans une période difficile ou qui sont plus négatifs ou qui ont une vibration plus basse, comme on dirait, c'est de ça dont ils ont besoin de joie. Alors si on peut juste leur partager un petit rayon de soleil plutôt que de se forcer à tomber à leur hauteur, plutôt que de croire qu'il faut être contaminé ou il faut être triste ou qu'on doit tellement se sentir mal, en fait, d'être heureux. Comme je vous dis, il faut garder ses oreilles ouvertes. Ça ne veut pas dire se boucher les oreilles en disant « Non, 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 tu ne dois pas contaminer ma joie. » Au contraire, c'est justement de comprendre que cette joie ne dépend de rien. Alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de fuir, on n'a pas besoin de se protéger. On comprend que notre joie est inconditionnelle. On n'a pas besoin de biens matériels, on n'a pas besoin de quelqu'un. Eh bien oui, on peut avoir de la peine, ça c'est sûr, c'est normal. Et oui, on a besoin d'une maison, d'un toit sur la tête, c'est normal, mais je veux dire, notre joie ne dépend pas des circonstances extérieures, elle dépend de nous-mêmes et du choix qu'on fait. Alors comme je vous dis, un journal de gratitude, ça va aider parce que ça va nous permettre de voir clairement les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Il y a aussi au niveau de la vibration, en fait. Donc, des trucs pour élever votre vibration, ça peut être aussi simple que d'aller marcher en forêt, voir un ami qui vous fait du bien, vous défouler de façon sécuritaire, comme par exemple en prenant un cours de boxe, ou crier dans un environnement qui vous le permet. Donc, si vous avez une forêt pas loin de chez vous et que vous n'avez pas peur d'effrayer vos voisins, allez lâcher un bon cri primal, ça va tellement vous faire du bien. Ça, on a le droit de le faire, il n'y a rien de négatif. Les enfants le font. Ça les libère tellement. Les enfants ne gardent pas leurs émotions à l'intérieur. Et ça, Jean-Marie Muller, qui est médium et formateur, en parle beaucoup. Les enfants, ils font sortir le méchant tout de suite. Alors, ils ne sont pas pris avec ça comme nous, les adultes, on l'est par mesure de convention. Alors, ensuite de ça, écrire, danser, écouter de la musique, chanter, vous purifier avec la sauge, prendre un bain de sel, prendre une douche, relaxer, prendre un bain de soleil, voir votre film préféré, faire une activité que vous aimez, vous rassurer, vous dire que ça va bien aller, bouger, juste bouger, ça va vous faire du bien, ça va tout faire bouger justement à l'intérieur de vous, autant vos idées, ça va vous aérer, ça va vous soulager. Tout ça, ça va augmenter votre vibration. On peut utiliser aussi les huiles essentielles. Mes deux préférées, en fait, pour la vibration, c'est la rose sur le cœur et le mélange, la synergie Forgive de doTERRA que je mets sous mes pieds ou sur mes épaules avant de me coucher, à tous les soirs. Vous pouvez aussi le mettre où vous avez envie. On a le mélange Motivate aussi chez doTERRA qu'on peut mettre au poignet, qu'on peut mettre sur le cœur, qui va élever notre humeur. Tous les agrumes en général, la menthe, les huiles essentielles forestières, le sapin, le cèdre, l'épinette et autres. Tous ces arômes-là, en fait, vont aller améliorer votre humeur, vous consoler, vous stimuler. Et tous les arômes que vous aimez personnellement. Parce que vous avez beau prendre les huiles les plus élevées en vibration, si leur arôme vous dérange, vous ne serez pas plus avancé. Alors allez-y avec votre instinct. Qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est ça qu'il vous faut. Ça va tellement vous faire du bien. Vous sentirez que votre vibration a augmenté lorsque vous percevrez vos difficultés ou vos tracas ou vos questionnements avec un angle différent. Vous allez vous sentir détaché comme si vous étiez à vol d'oiseau. Vous y verrez beaucoup plus facilement des solutions créatives. Vous sentirez plus d'énergie, vous allez être moins fatigué, vous allez être plus positif en général. Les gens vont vous dire « Wow! T'as donc bien l'air bien! » Vous allez sentir que vous rayonnez. Vous allez vous apercevoir que vous partagez spontanément des conseils ou des paroles d'encouragement à vos proches qui sont en difficulté ou qui ont juste besoin de parler. Vous serez plus léger, vous aurez l'impression que l'air est plus frais. Et plus vous vivrez dans cet état, plus ce sera facile pour vous de l'atteindre. Alors même si vous avez eu un moment difficile, c'est comme je le disais dans le texte, c'est comme un muscle. Plus vous allez perfectionner votre muscle, plus vous allez le travailler, plus ça va être facile pour vous de retrouver cet état-là. Et c'est très positif, pensez-y, c'est très encourageant parce que vous savez que ça va toujours être là. Alors il suffit d'investir du temps, de la conscience, de la volonté là-dedans et vous savez que vous êtes en train de planter une graine qui va vous servir pendant toute votre vie. Votre conscience va avoir la mémoire, votre inconscient même va avoir la mémoire de plus en plus aiguisée de cet état-là. Et il va être capable d'aller le chercher simplement, naturellement. C'est drôle. J'ai enregistré l'épisode en deux segments parce que mon fils a été malade la semaine passée. J'ai pas roulé vraiment pas autant que je voulais et on a eu un long congé la fin de semaine dernière. Je vois à quel point j'étais grinquée. J'étais convaincue en tout cas. J'espère que je suis convaincante aussi. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus doux pour ce segment-ci. En fait, je vais vous lire un ou deux extraits du livre de la joie. Je vais aller vous chercher aux éditions Flammarion. C'est un livre avec le Dalai Lama et Desmond Tutu. Donc le Dalai Lama, on sait qui il est dans le bouddhisme. Et Desmond Tutu est un archevêque anglicain sud-africain. Donc le livre s'appelle Le Livre de la Joie, coécrit avec Douglas Abrams. Comme sous-titre, on a l'invitation au bonheur de deux prix Nobel de la paix. Le livre, en fait, c'est un échange entre ces deux hommes, qui sont tous les deux des beaux exemples de sagesse et des exemples de joie. On voit des photos, le livre est illustré, il y a des photos qui se glissent à travers les textes, et on voit à quel point ces deux gamins, qui ont l'air de s'amuser, ils passent leur temps à se faire des blagues, ils ont compris, en fait, que la vie, ça nous apporte rien, en fait, de la voir de façon dramatique. Alors, je vais vous lire quelques petits extraits du début du livre pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Nul sombre destin ne réside à notre avenir. C'est nous qui traçons notre chemin. Chaque jour, à chaque instant, nous pouvons créer et recréer nos existences et préserver la vie humaine sur notre planète. Tel est notre pouvoir. Vous ne trouverez pas la joie en poursuivant un but. Le bonheur durable réside non pas dans la richesse et la célébrité, mais dans l'esprit et le cœur, où chacun d'entre nous peut le trouver. Donc ça, c'est dans la préface. Ensuite, on a l'introduction qui est faite par Douglas Abrams. S'ils ne se sont rencontrés qu'une demi-douzaine de fois, ils ont forgé un lien qui transcende la brièveté de leurs échanges. Ils se considèrent comme des frères spirituels, espiègles. Jamais auparavant et sans doute jamais plus, ils n'auront l'occasion de profiter l'un de l'autre, de se réjouir de leur amitié. Sa sainteté et l'archevêque sont deux maîtres spirituels de notre temps, mais ce sont aussi des leaders moraux qui, au-delà de leur propre tradition, se soucient du bien-être de tous les peuples. Ils ont inspiré des millions de personnes par leur courage, leur résistance, leur espoir tenace en l'humanité et par le refus de céder au désespoir et au cynisme qui menacent aujourd'hui de nous engloutir. Loin d'être simples et superficiels, leur joie est alimentée par le feu de l'adversité, de l'oppression et de la lutte. Sa sainteté et l'archevêque nous rappellent que la joie est en réalité un droit inaliénable, plus fondamental encore que le bonheur. La joie, nous dit l'archevêque, est bien plus grande que le bonheur. Alors que le bonheur est souvent dépendant de facteurs extérieurs, la joie ne l'est pas. Cet état d'esprit et de cœur est pour ces deux pères spirituels ce qui donne un sens à la vie. Leurs dialogues ont porté sur ce que le Dalai Lama appelle le but véritable de l'existence, qui consiste à éviter la souffrance et trouver la voie du bonheur durable. Ils ont partagé une sagesse chèrement acquise et nous ont montré le chemin de la joie malgré les aléas du sort. Ensemble, ils ont réfléchi aux moyens de transformer un sentiment éphémère en un état d'esprit durable. Dès le début, nous avons envisagé ce livre comme un gâteau d'anniversaire à trois étages. Le premier se rapporte aux enseignements sur la joie du Dalai Lama et de l'archevêque Tutu. Est-il possible d'atteindre cet état de grâce dans les tourments du quotidien? De l'irritabilité d'être ralenti par un embouteillage à la peur de ne pouvoir nourrir sa famille, de la colère à l'encontre de ceux qui nous ont trahis, au chagrin d'avoir perdu un être cher, des ravages de la maladie à l'abysse de la mort. Comment embrasser la réalité de nos vies, regarder la vérité en face et transcender l'inéluctable douleur. Et quand bien même la vie nous sourirait, a-t-on le droit de se réjouir quand tant d'autres souffrent? Quand l'écrasante pauvreté vole leur avenir à tant d'hommes et de femmes, quand la violence et la terreur dévastent les rues, quand la destruction écologique menace la possibilité même de vie sur cette planète, ce livre tente de répondre à ces questions et à bien d'autres. Le deuxième étage se compose des deux dernières recherches scientifiques sur la joie et les autres qualités essentielles au bonheur durable. Les découvertes récentes des neurosciences et de la psychologie expérimentale nous ouvrent de nouvelles perspectives sur l'épanouissement de l'être humain. 2 mois avant ce voyage, j'ai rencontré le neuroscientifique Richard Davidson, un pionnier dans la recherche sur le bonheur. Il a observé les adeptes de la méditation dans son laboratoire et découvert qu'elle avait des bienfaits mesurables sur le cerveau. Nous déjeunions à la terrasse d'un restaurant vietnamien de San Francisco. Monsieur Davidson me dit que sa sainteté trouvait les recherches sur la méditation très stimulantes, en particulier pour se lever tôt le matin et méditer. Si la science aide le Dalai Lama, elle peut certainement aider encore plus tous les autres. Trop souvent, on considère la spiritualité et la science comme des forces antagonistes qui tendent à s'étrangler mutuellement. Pourtant, l'archevêque Tutu a exprimé sa croyance en ce qu'il nomme la vérité auto-corroborative. Lorsque plusieurs domaines de connaissances pointent vers une conclusion identique. De la même manière, le Dalai Lama a réaffirmé combien il était crucial que ce livre ne soit ni chrétien ni bouddhiste, mais universel, alimenté non seulement par l'opinion, la tradition, mais aussi par les sciences. Découvrir la joie ne nous protège pas, j'ai le regret de le dire, des vicissitudes de l'existence, déclara l'archevêque. En fait, on pleure plus facilement, mais on rit aussi plus souvent. On est peut-être tout simplement plus vivant. Mais grâce à la joie, la souffrance, loin de nous rendre amers, élève notre âme. On subit l'adversité sans s'aigrir. On supporte le chagrin sans se briser. Au cours de notre premier déjeuner, l'archevêque m'a raconté une anecdote sur une conférence qu'il avait donnée avec son vieil ami. Au moment de monter sur scène, sa sainteté l'icône de la compassion et de la paix dans le monde a fait semblant d'étrangler son frère spirituel. L'archevêque s'est tourné vers lui et s'est écrié « Hé, on est filmé! Comporte-toi en saint homme! » Il nous rappelle que le plus important est de choisir chaque jour notre propre chemin. Même les saints hommes doivent agir en saints hommes. Pourtant, le comportement qu'on attend d'eux, pieux et réservé, ne correspond guère à la manière dont ces deux sages appréhendent l'univers et interagissent l'un avec l'autre. L'archevêque Tutu n'a jamais proclamé la sainteté, et le Dalai Lama se considère comme un simple moine. Ils sont le reflet de vraies vies emplies de tourments et de bouleversements et ont atteint une forme de paix, de courage, de joie dont nous devons nous inspirer. Par ce livre, ils souhaitent non seulement partager leur sagesse, mais aussi leur humanité. La souffrance est inévitable, mais notre réaction à la désespérance ne tient qu'à nous. Nul ne peut vous priver de cette liberté. Alors voilà, c'était le début du livre. Je suis toujours en train de le lire. Je pourrais vous en reparler dans le futur. Mais pour ceux à qui ça parle, vous pouvez vous le procurer. Je vais vous mettre le lien Amazon si vous souhaitez passer par mon site internet. Ça me permet en fait d'avoir un petit pourcentage de la vente pour aider à financer le podcast et mon travail. Alors je vous remercie. Je vous laisse avec le dernier segment de l'épisode qui est très chargé en émotions. Comme je vous dis, la semaine dernière, j'étais chargée à bloc, alors vous allez voir un petit changement dans mon énergie. Je peux vous dire tout de suite que j'ai recommencé le yoga depuis samedi et je m'entraîne plus, donc je sens que mon énergie est plus posée. Alors je crois que ça va être profitable pour vous aussi et pour moi. J'apprécie de me sentir plus groundée et un peu moins attisée, je dirais. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous remercie toujours pour votre présence et votre écoute. Je quitte en fait en vous parlant de quelques notes que j'ai prises en écoutant des vidéos justement de Abraham Hicks dont je vous parle souvent. En fait, des petites notes comme ça qui sont venues sur la joie inconditionnelle puisqu'elle en parle beaucoup. Donc, être conscient que nous créons notre réalité. Alors, on n'est pas créateur de la réalité des autres. Alors, la seule solution logique quand on réalise qu'on crée notre propre réalité, c'est la joie inconditionnelle, c'est l'amour inconditionnel, le soin de soi inconditionnel, l'écoute, le respect inconditionnel ou l'alignement inconditionnel parce que qu'est-ce qu'on voudrait s'offrir d'autre? On est responsable de nous-mêmes, alors on va s'offrir le mieux. Sinon, c'est complètement ridicule pourquoi on est là. Et ça peut être dur pour vous d'entendre ça, là. Parce qu'on a tous eu ou on a des habitudes d'autodestruction. Mais il faut comprendre qu'on est les seuls responsables de tout ça. On est les seuls qui pouvons changer ça. Quand bien même quelqu'un nous prendrait et nous dirait « Je vais m'occuper de toi, je vais tout faire pour t'aider. » Si vous refusez d'être aidé ou de vous aider, il n'y a rien qui va se passer. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. Il n'y a personne qui peut changer ça. Alors, si vous êtes dans une situation vraiment difficile, allez chercher de l'aide. Ça aussi, ça relève de vous. Alors, c'est pas juste de dire « Tout repose sur vous. » Tout repose sur votre choix. Et si vous réalisez que vous êtes dans une situation où vous avez réellement besoin d'aide, allez la chercher. Allez cogner aux bonnes portes. Renseignez-vous sur qui peut vous aider. Abraham Hicks spécifiait, en fait, c'est quoi l'amour inconditionnel. Alors, il dit, quand on dit amour inconditionnel, on a du mal à saisir c'est quoi. Mais allez le clarifier, en fait, avec une clarté inconditionnelle. Donc, ayez une clarté d'esprit qui est inconditionnelle. Une appréciation inconditionnelle. Donc, autant de vous-même, des autres, de ce que vous faites, de votre travail, appréciez de façon inconditionnelle et un alignement à la source qui est inconditionnelle. Donc, être aligné à votre âme, c'est inconditionnel. C'est pas juste quand je me sens bien, c'est pas juste quand je suis en vacances, c'est pas juste quand j'ai la chance d'aller prendre une marche, c'est toujours. C'est inconditionnel. Vous devez le réclamer, ça vous revient, c'est à vous, vous avez droit à ça. Votre alignement inconditionnel, votre clarté, votre appréciation, c'est indiscutable. Et prenez le temps d'y penser, prenez le temps de saisir ça et vous allez être d'accord, vous allez le comprendre profondément. Alors, soyez un vivant inconditionnel. Je vous quitte là-dessus. Écoutez, ça a passé en un clin d'œil. Je suis déjà à 50 minutes d'enregistrement. Je tenais à vous partager pour moi c'est quoi la joie inconditionnelle et comment est-ce que je crois qu'on peut y arriver. Alors, je pense que justement, l'exercice de fermer les portes ou de couper les liens, ça va vous permettre de vous dégager et de croire réellement en la joie inconditionnelle et de l'alimenter et de la cultiver. Je tiens à dire que c'est tout à fait possible et que si vous vous sentez étourdi là-dedans et que vous avez du mal à voir la prochaine direction, n'hésitez pas à me contacter. J'offre des services de coaching dès maintenant pour aider les gens dans leur processus de développement personnel, de spiritualité, leur santé holistique en général, donc autant l'alimentation, vos habitudes de vie, vos habitudes de pensée. Alors, ça me fait plaisir. Sinon, il y a plein de ressources qui existent aussi sur Internet. Vous pouvez faire des recherches, aller voir ce que vous pouvez trouver sur le sujet, des vidéos YouTube ou d'autres podcasts ou des articles de blog. On est dans une période où c'est extraordinaire. J'ai pas pu voir tout ce qui existait sur la joie inconditionnelle en français. Je me suis surtout alimentée en anglais. Mais écoutez, il y aura, s'il y en a pas déjà beaucoup, il y en aura plus avec le temps. C'est quelque chose qui va faire sa place. Alors, je vous souhaite à tous la plus belle des joies. Je vous souhaite de posséder votre joie et de la valoriser comme le plus beau joyau du monde puisque c'est votre chance de vivre une vie complètement épanouie et libérée. Alors, je vous aime. Je suis toujours tellement heureuse de communiquer avec vous et de recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter à la fin des épisodes. On a aussi la page Facebook de La Chamane qui vous permet de vous joindre à la communauté. J'ai même le petit groupe Claire Potentiel qui est pour les gens qui aimeraient développer leur médiumnité. On est au tout début, alors on découvre ensemble. Tout est là pour s'amuser. Alors je vous aime, je vous souhaite une super belle semaine et on se retrouve très bientôt. Au revoir.